Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur la réconciliation dans les Balkans avec Serge Brammertz, procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Créé par l'ONU en 1993, ce tribunal a pour mandat de juger les personnes présumées responsables des crimes de guerre commis dans les Balkans au cours des conflits des années 90. Pendant ses 22 années d'existence, le TPI grec a réussi à radicalement transformer le paysage du droit international humanitaire et a montré à maintes reprises que les hautes fonctions occupées par un individu ne sont plus un rempart contre les poursuites judiciaires. Alors que le tribunal doit fermer ses portes en 2017, l'occasion était tout d'abord donnée au procureur de faire le point sur les principaux jugements qui devront être rendus d'ici là. Serge Brammertz.
On parle toujours d'une vingtaine d'accusés qui doivent passer à travers le processus judiciaire avant fin 2017. La première décision vraiment importante qui va sortir, c'est au mois de mars, le jugement dans le dossier contre le président Karadzic. Le procès qui a duré plusieurs années, un procès un des plus importants dans l'histoire du tribunal par rapport au nettoyage ethnique dans toute une série de municipalités entre 92 et 95. Le siège de Sarajevo, pendant lequel plus de 10 000 personnes ont perdu la vie, fait partie aussi de l'acte d'accusation, le génocide de Srebrenica. Donc c'est vraiment une décision très importante qui est attendue. Une autre décision dans le dossier de Šešelj, président du Parti radical. Le procès de Mladic, général Mladic, qui était le commandant des forces serbes de Bosnie, son procès est toujours en cours et nous nous attendons à ce que le procès soit terminé d'ici l'été prochain. Puis il faudra évidemment encore une série de mois pour avoir un jugement. Donc tout cela pour dire que nous sommes toujours dans une phase très active du tribunal. Il est assez intéressant, je pense, de constater qu'en fait, les deux procès les plus importants dans l'histoire du tribunal contre le président Karadzic et le général Mladic ont lieu à la fin de l'existence du tribunal. En fait, pour les deux, les mandats d'arrêt et actes d'accusation datent de 1995, mais il a fallu 15 et 17 ans pour les avoir arrêtés, donc ce qui montre une fois de plus que il faut du temps et quelqu'un qui est protégé aujourd'hui parce qu'il a toujours une fonction importante ne l'est peut-être plus dans 5 ans, 10 ans. Donc la justice internationale prend probablement plus de temps que la justice nationale parce qu'il y a un monde réel politique qui est là et qui fait que certains réfugiés sont plus protégés que d'autres.
Et par rapport justement à cette question de temps, que se passe-t-il si le jugement n'a pas été rendu à la date de la fermeture du tribunal ?
En fait, je suis assez confiant que les derniers jugements que le tribunal doit rendre vont être rendus pendant les laps de temps. En fait, le Conseil de sécurité, déjà il y a 3 ans, a créé un mécanisme pour juridiction internationale qui va reprendre les procédures qui ne vont pas être terminées au niveau de notre tribunal. Je m'explique. Actuellement, nous avons le mandat de terminer tous les procès en première instance qui sont actuellement Karadzic, Mladic, Šešelj et Hadžić. Mais si appel il y aura pour ces 4 dossiers, cette procédure d'appel va avoir lieu devant les juges de ce mécanisme résiduel qui a été justement créé pour s'occuper des fonctions résiduelles.
Travaillé beaucoup avec les procureurs des pays qui formaient avant la Yougoslavie. Quels sont certains des défis auxquels vous faites face ? Vous avez évoqué dans le passé des préoccupations par rapport au révisionnisme ou à la réécriture de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans votre travail avec ces pays ? Est-ce que vous faites face aux mêmes défis partout ?
Voilà, je pourrais certainement pendant des heures vous parler des défis que nous avons par rapport à la coopération régionale. Au niveau de la coopération avec le tribunal, aujourd'hui, c'est beaucoup business as usual. Nous avons une coopération bonne avec les procureurs en Serbie, Croatie, Bosnie. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y avait beaucoup de refus de coopération. Aujourd'hui, la situation est quasi normale. Les demandes d'entraide qui sont envoyées sont répondues. Donc là, il n'y a pas de problème. Le grand défi pour les années à venir, c'est le traitement des dossiers par les juridictions nationales, surtout en Bosnie, où il y a plus de 5000 enquêtes toujours en cours par rapport à des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Certains auteurs qui se trouvent en Serbie, d'autres se trouvent en Croatie. Il n'y a pas d'accord d'extradition entre les pays de l'ex-Yougoslavie, ce qui pose évidemment toute une série de problèmes au niveau des poursuites. Les ressources sont limitées. Par exemple, en Bosnie, il y avait une stratégie aussi d'achèvement des travaux décidée par le gouvernement pour traiter tous les dossiers de crimes de guerre pendant un certain laps de temps, 7 ans pour les dossiers de grande importance et 14 ans pour les dossiers de moindre importance. Tous ces délais ne pourront pas être respectés parce qu'il y a des retards très importants. Tout cela pour dire que même si notre tribunal va fermer ses portes en fin 2017, il y aura certainement pour 10, voire les 20 ans à venir, beaucoup de dossiers qui doivent être traités au niveau national. Révisionnisme, c'est un autre problème. Vous savez, j'ai notamment parlé des missing persons, les personnes dont on recherche toujours les corps. Il y a plus de 8000 personnes victimes de la guerre en Bosnie. On n'a pas pu retrouver les corps. Une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, c'est que les auteurs des crimes sont toujours considérés comme des héros dans leur communauté respective. Et si nous, on fait un appel public à des témoins pour nous dire, vous qui étiez dans la région, soldats, ouvriers qui ont creusé les fosses communes, s'il vous plaît, donnez les informations par rapport où ces corps se trouvent. Aussi longtemps que les auteurs sont considérés comme des héros dans la société, les gens hésitent à donner ce genre d'informations parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme traîtres par rapport à leur communauté. Des officiels du gouvernement serbe, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, sont venus à La Haye pour récupérer un de leurs généraux, Lazarevic, qui avait purgé sa peine, une peine de 14 ans pour crimes commis pendant la guerre, notamment au Kosovo. Il a été reçu avec tous les honneurs et un des ministres a dit que c'est un grand jour pour la Serbie. Tant que vous avez une attitude de la part de responsables politiques qui continue à glorifier les actes et les personnes qui ont été condamnées pour crimes de guerre, qui sont des criminels de guerre, eh bien, c'est difficile de marcher ensemble dans la bonne direction. Et aussi longtemps qu'il y a une telle divergence dans l'appréciation de la réalité du passé, c'est très difficile de voir un avenir commun.
Et justement, par rapport à ce que vous venez de décrire, comment voyez-vous les perspectives de réconciliation, tant au niveau régional que dans une communauté entre une victime et un accusé, qu'on n'aurait toujours pas fait justice?
Évidemment, le sujet de la réconciliation est un sujet qui est abordé très très souvent. Et d'une certaine manière, parfois, on nous reproche presque pour dire « Est-ce que vous pensez, comme procureur, jouer un rôle positif par rapport à la réconciliation? Est-ce que ce n'est pas plutôt un rôle négatif? » Parce que chaque fois qu'il y a un jugement qui est rendu à La Haye, c'est une communauté qui est contente et l'autre communauté qui est très dissatisfaite. Et ça va à chaque fois faire augmenter les tensions. Et la réponse que je donne d'une manière générale, c'est de dire « Eh bien, la poursuite, un procès comme tel, ne peut pas résulter dans une réconciliation. Mais je crois que c'est un point de départ. C'est vraiment une condition sine qua non qui doit être remplie avant de pouvoir penser à une réconciliation. Vous savez, j'ai rencontré pendant ces dernières années, plusieurs fois par an, notamment les maires de Srebrenica. Une des grandes organisations de victimes où la présidente Munira Subasic, elle a perdu 22 membres de sa famille, son mari, ses enfants, de son plus jeune fils. Après 20 ans, ce mois-ci, on a trouvé une partie de son corps qu'elle a pu enfin enterrer. Et toutes ces personnes, toutes ces victimes qui vivent vraiment dans des conditions excessivement modestes, chaque fois quand je les ai vues, elles n'ont pas parlé de leurs conditions de vie difficiles, elles ont toujours dit « Nous voulons voir les responsables principaux devant le tribunal, à savoir Karadzic et Mladic. » Donc tout cela pour dire que pour les victimes, pour pouvoir tourner la page, probablement ils ne pourront jamais, mais pour pouvoir avancer vers un futur et donner une chance à la réconciliation, il faut d'abord que ceux qui sont les plus hauts responsables soient poursuivis. Donc je pense vraiment que la réconciliation ne peut jamais être imposée de l'extérieur. Elle doit venir de l'intérieur d'une société, elle doit venir de la société civile, elle doit venir des victimes elles-mêmes. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a trop d'hommes politiques, je dirais irresponsables dans toute la région, qui toujours reviennent vers le nationalisme et qui en fait encourage ces sentiments très négatifs par rapport à l'autre communauté, comme vous avez des hommes politiques en République Srpska qui disent publiquement que le génocide de Srebrenica n'a jamais eu lieu.
Conflit qui qui a démembré la Yougoslavie a notamment marqué les esprits à cause de l'usage qui a été fait du viol comme arme de guerre. Quel a été le rôle du tribunal, ou quel est toujours le rôle du tribunal pour combattre ce fléau?
Vous savez, la violence sexuelle dans les conflits armés est malheureusement une réalité qui est présente partout, dans tous les conflits. Elle était une réalité évidemment en ex-Yougoslavie. Nous le voyons aujourd'hui en Syrie, en République centrale africaine. Historiquement, peu d'attention a été donnée à ces crimes pendant les conflits. C'était considéré comme, excusez-moi l'expression, des dommages collatéraux. Les hommes qui partent en guerre, voilà, les crimes sexuels, ça a lieu, ce n'est pas lié au conflit, c'est plutôt un autre phénomène. Nous avons pu, grâce à nos dossiers, nos enquêtes et aussi à notre jurisprudence, pu vraiment changer cette approche. Nous avons pu veiller à ce que les crimes sexuels fassent part entière de nos actes d'accusation. Nous avons pu établir que les crimes sexuels, dans certaines circonstances, peuvent être des actes de torture, peuvent être des crimes contre l'humanité et peuvent aussi être des éléments constituants du crime de génocide. Nous avons, pas plus tard qu'il y a l'année dernière, eu une jurisprudence où les juges ont condamné des commandants pour les crimes sexuels commis par leurs soldats, en suivant notre thèse qui disait que tout crime qui est prévisible doit être mis à charge aussi des commandants. Pas seulement les crimes qui ont été ordonnés. Donc si vous envoyez comme général des troupes dans un village pour chasser tous les habitants, pour commettre des meurtres, même si vous n'avez pas donné l'ordre de commettre aussi les crimes sexuels, eh bien notre jurisprudence constante accepte que ce sont des crimes prévisibles qui vont avoir lieu si vous envoyez des troupes dans une région pour manifestement commettre des crimes de nettoyage ethnique, et nous avons obtenu toute une série de condamnations. Vous savez, nous allons fermer nos portes après 22 ans d'existence et nous avons essayé de documenter nos expériences et nous venons de terminer une étude de 600 pages sur tout ce que nous avons bien fait et aussi les choses qu'on aurait pu faire mieux pendant les 20 années. Donc nous avons fait vraiment une analyse très critique de notre travail en analysant toute la politique des enquêtes les premières années, la politique des poursuites et aussi en analysant tous les jugements et en faisant toute une série de recommandations qui peuvent être utilisées par d'autres collègues qui travaillent dans ce secteur, dans d'autres conflits dans ce monde.
D'une manière générale, une fois que le tribunal aura fermé, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la possibilité pour les juridictions nationales de prendre le relais? Comment voyez-vous les choses?
C'est évidemment une question difficile, je l'espère. Vous savez, j'ai commencé dans le domaine de la justice internationale il y a 12 ans. J'étais un, comme je dis en anglais, idealistic believer, et maintenant je suis un realistic believer. Donc on a certainement vu avec la création de la CPI, avec les juridictions ad hoc, que beaucoup de choses se sont passées dans le sens positif. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, aucune juridiction internationale n'existait. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Mais on s'est aussi rendu compte que la justice internationale ne peut que traiter un nombre très limité de dossiers. Notre tribunal est celui qui a eu le plus grand nombre d'actes d'accusation avec 161. C'est plus que toutes les autres juridictions ensemble, donc c'est beaucoup, mais c'est très peu par rapport au nombre d'enquêtes qu'il faut encore mener au niveau national. Je mentionnais les 5000 dossiers en Bosnie, donc je crois que où nous sommes tous d'accord, nous procureurs internationaux, que ce soit à la Cour pénale internationale, tribunal pour le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, Cambodge, Liban, que l'avenir de la justice internationale doit avoir lieu en grande partie au niveau national. Il faut qu'il y ait la connaissance, il faut donc l'expérience, il faut les capacités, les ressources humaines pour le faire, et il faut la volonté politique d'avancer. Et il est clair qu'en ex-Yougoslavie, certainement en Bosnie, il n'y a pas un avis unanime à ce niveau-là. Il y a pas mal d'hommes politiques qui vont tout faire pour empêcher à ce que ce genre d'enquête puisse être menée à bien. C'est pour ça que vous avez l'Union européenne qui, dans le processus de l'élargissement, va suivre de près les progrès qui sont réalisés dans la poursuite. Mais ça va rester très difficile et il faut rester vigilant si on veut vraiment que le travail sur ces enquêtes de crimes de guerre soit poursuivi.
Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice, oni u vojsku polaze, prate ih tužne curice, brinu ih slutnje sulude, da rata ne bude.
Et c'est avec Serge Brammertz, procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet le magazine hebdomadaire, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.